La question « que fait la couleur à la photographie ?» est une question qui se pose, je crois, à toute personne qui s'intéresse aux archives de la planète. Cette exceptionnelle collection photographique, rassemblée par le banquier et philanthrope Albert Kahn, entre 1909 et 1931, pour, selon ses termes, fixer une fois pour toutes des aspects, des pratiques et des modes de l'activité humaine dont la disparition fatale n'est plus qu'une question de temps. Les archives de la planète compte ainsi près de 72 000 autochromes et plus de 100 heures de films collectés dans une cinquantaine de pays par une dizaine d'opérateurs. Elle constitue à ce titre la plus vaste collection autochrome du monde. L'extraordinaire homogénéité de cet ensemble interpelle. Pourquoi avoir choisi la couleur, alors même que le procédé autochrome présente, dans le cas des archives de la planète, de nombreux inconvénients? Parmi ceux-ci, on peut citer la lenteur du procédé, dont le temps de pose empêche des prises de vue sur le vif à une époque où la photographie rapide existait pourtant déjà. On peut également relever la lourdeur du dispositif, qui transforme chaque voyage en excursion et ajoute donc des complications d'ordre logistique à la complexité de missions photographiques dans des zones parfois politiquement troublées. Les opérateurs photographes devaient en effet se prémunir du bris des plaques de verre et veiller à la stabilité chimique du procédé en assurant leur développement sur place, rapidement après la prise de vue. Un autre inconvénient du procédé autochrome pour le projet d'Albert Kahn consiste dans sa non-reproductibilité. Ce dernier point peut paraître d'autant plus fâcheux que le titre même du projet photographique fait de sa mise à disposition une finalité. Or, malgré ces inconvénients, Albert Kahn commande l'usage constant du procédé autochrome. Je souhaiterais donc déterminer avec vous ici quelques enjeux de cette fidélité à toute épreuve. Pourquoi donc le procédé autochrome? Et pourquoi alors la couleur, puisque la restitution des couleurs naturelles et sa diffusion au moyen de projections en sont les caractéristiques principales qui le distinguent des autres procédés disponibles à l'époque. Afin d'avancer quelques pistes de réflexion, je vous invite à étudier de plus près un corpus plus modeste et moins connu qui ne fait pas partie à strictement parler des archives de la planète. Il s'agit des autochromes du jardin de la propriété d'Albert Kahn, devenu aujourd'hui le musée départemental que vous connaissez. En effet, à côté du registre A, conservé à Boulogne, dans les archives du musée et regroupant les images des archives de la planète, on trouve un registre B qui répertorie 2443 photographies, dont 1740 autochromes, pris dans les jardins d'Albert Kahn entre 1910 et 1956. Notons que, contrairement aux archives de la planète, cet ensemble a survécu à la ruine d'Albert Kahn en 1931, puis à sa disparition en 1940. Ancien opérateur des archives de la planète, alors ça c'est le registre B, ancien opérateur des archives de la planète, Georges Chevalier est devenu par la suite le premier conservateur des collections photographiques après leur rachat par le département de la Seine en 1936. À ce titre, il a continué d'organiser la photographie des jardins Kahn, pour lesquels il a recommandé l'emploi systématique du procédé film color, donc sur support souple. Il apparaît dans un premier temps nécessaire d'interroger les intentions de Kahn pour déterminer les enjeux de l'emploi du procédé autochrome. Si les archives du musée ne font état d'aucune indication précise de Kahn aux photographes qu'il a envoyés dans ses jardins et qui étaient les mêmes photographes que les opérateurs des archives de la planète, on peut s'appuyer sur ses autres projets philanthropiques et personnels pour présenter notre corpus en creux et déceler les premiers indices de son rapport à la photographie. D'origine alsacienne, Kahn répond aux exigences du traité du 18 mai 1871 en choisissant la nationalité française et se rend à Paris pour travailler à la banque Gucho et Compagnie, qui appartient à des cousins éloignés. Il devient rapidement associé en nom collectif de cette banque et en 1894, il cofonde une société de bourse qui introduit sur le marché français les titres des mines d'or du Transvaal, la New Austral Company. En 1898, il fonde sa propre banque. Mais ce succès professionnel n'est pas une fin. En 1887, il écrit à son répétiteur et ami Henri Bergson que la réussite en affaires, je le cite, n'est pas son idéal. Elle présente néanmoins l'avantage de l'intégrer au réseau intellectuel des Gucho. Kan évolue au sein des élites républicaines et rencontre un milieu philanthrope et laïque qui prête une attention aiguë au progrès et à l'enseignement. Sa fortune assurée, le banquier décide alors de l'engager dans une œuvre philanthropique multiple. En 1898, il crée tout d'abord les bourses autour du monde, qui permettent aux jeunes agrégés se destinant à l'enseignement de voyager pendant un an. Les yeux, je cite, grands ouverts, les lauréats sont invités à, je cite à nouveau, entrer en communication sympathique avec les idées, les sentiments, la vie enfin des différents peuples. Fin de citation. Albert Kahn souhaite que ces voyages les conduisent, suivant ses propres termes, à vivifier leur pensée en la rapprochant de l'action. Après les bourses autour du monde, naît la Société autour du monde, formée en 1906 par les anciens boursiers de Kahn et autour de laquelle gravitent les élites intellectuelles, politiques et scientifiques de l'époque. J'ajoute aussi que Paul Desjardins est un membre associé de la Société autour du monde à partir de 1912. On retrouve des traces dans les registres. À partir de 1909, c'est enfin un autre projet philanthropique qui voit le jour avec les Archives de la planète. Or, nos images du jardin sont étroitement liées à la célèbre photothèque. En effet, Marie Corneloup mentionne notre corpus lorsqu'elle évoque les débuts des Archives de la planète dans le catalogue de l'exposition « La Mongolie entre deux airs » qui a eu lieu au musée Albert Kahn en 2011. Selon elle, l'intérêt de Kahn pour la photographie remonte au mois de novembre 1908. En effet, du 13 novembre 1908 au 11 mars 1909, Kahn entreprend un voyage autour du monde. Il se rend aux États-Unis, au Japon et en Chine. Et il a pris soin, avant de partir, d'offrir à son mécanicien-chauffeur Albert Dutertre une formation à la technique photographique, je cite, « sur verre, en noir et en couleur ». Pour cette première expérience, qui est tout à la fois un voyage d'affaires et une expédition photographique, le banquier a déployé des moyens dont l'envergure signale déjà un attrait singulier. Kahn et Dutertre ramènent plus de 4000 plaques stéréoscopiques de leur voyage. À son retour, enthousiasmé par cette expérience, Kahn installe un laboratoire dans sa propriété de Boulogne et recrute un photographe professionnel. Georges Chevalier se souvient de cette période en ces termes, je le cite, « Kahn pourrait ainsi avoir un photographe et faire prendre à loisir des vues de ses jardins, qui commençaient à être très beaux. » Le photographe en question se nomme Auguste Léon. Ses premières photographies du jardin sont des vues stéréoscopiques qui datent du mois de juin 1909. Or, ces images sont décevantes. Chevalier rapporte qu'Albert Kahn n'est pas satisfait du noir et blanc, qui ne rend pas compte de la subtilité et de la diversité des couleurs de son jardin. L'autochrome intervient à point nommé pour raviver l'intérêt de Kahn. C'est par l'intermédiaire de l'autochromiste Jules Gervais Courtelmont que serait intervenu ce que Chevalier appelle, je le cite, « l'éclatante révélation des projections de photographies en couleurs véritables ». Je renvoie aux articles de Nathalie Boulouche pour plus d'informations au sujet de ce personnage fascinant. Depuis le mois de novembre 1908, Courtelmont réalise des projections de ses vues d'Orient, visions d'Orient pardon, à la salle Charras de l'Opéra de Paris. On sait que Kahn assiste à la séance du 27 mai 1909, puisqu'il écrit à Auguste Rodin qu'il accompagnera lui-même ses visions de, je le cite, « vues animées » qu'il a rapportées de son dernier voyage en Extrême-Orient. Peu après, Chevalier rapporte que Jules Gervais Courtelmont est invité à, je cite, « faire une démonstration et prendre des vues des jardins ». Chevalier estime que, je cite encore, « c'est à cette époque que M. Kahn enthousiasmé eut l'idée de faire prendre des photographies à travers le monde et de créer une photothèque ». Kahn achète d'ailleurs à Courtelmont plusieurs photographies qui constituent les premières entrées du registre des archives de la planète. La conversion de Kahn à l'image, suivant l'expression de Marie Corneloup, aurait donc eu lieu dans son jardin, par l'autochrome, au printemps 1909. Je vais donc à présent brièvement décrire les jardins Kahn, qui provoquent aujourd'hui encore l'admiration de nombreux visiteurs. En 1895, Kahn acquiert la propriété du 6 quai du 4 septembre à Boulogne. Il conçoit progressivement un parc à Seine représentatif des styles à la mode au début du XXe siècle, mais également témoin de sa personnalité singulière. Avec l'aide de son chef jardinier Louis Picard, il s'investit personnellement dans sa construction. Jusqu'en 1920, sept espaces sont patiemment juxtaposés et aménagés pour former un parc à Seine de plus de 4 hectares. Le jardin français, dont on retrouve la verrière, une verrière qui ressemble beaucoup à celle de Cerisy, le verger roseraie, le jardin anglais, la forêt bleue et le marais, la prairie et la forêt dorée, le jardin japonais et chinois, et la forêt vosgienne. L'hôtel particulier d'Albert Kahn n'est pas le seul bâtiment qui donne sur ce jardin. Au 9 quai du 4 septembre se trouve le siège de la Société Autour du Monde. Au numéro 12, une autre villa est destinée à loger le secrétaire résident et à accueillir les familles des sociétaires. En 1909, on a vu qu'il installait un laboratoire photographique au numéro 9. Et à partir de 1927, on trouve enfin au numéro 8 un laboratoire de biologie. Notre corpus apparaît donc au croisement des archives de la planète et des jardins Kahn comme le point de déclaration d'un double amour. Avec ces images, Kahn affirme deux inclinations, photographique et horticole, devant les élites réunies autour de lui, en société, autour de ses projets philanthropiques. Je vous invite à présent à considérer deux régimes principaux de cet ensemble, l'un scientifique, l'autre spectaculaire, qui s'associent pour faire de la couleur un outil rhétorique, un argument sensible en faveur des idées et projets d'Albert Kahn, mais peut-être aussi de la modernité photographique. Nous allons voir dans un premier temps en quoi les autochromes du Jardin de Boulogne peuvent constituer non pas des documents scientifiques utilisés à des fins d'enseignement et de recherche, mais des représentations de savoir dont les différentes fondations d'Albert Kahn constituent un laboratoire. Ces photographies peuvent en effet être considérées comme les reflets obliques de disciplines telles que l'histoire, la géographie et la biologie, qui connaissent alors un développement nouveau et sur lesquels Kahn et son entourage portent un regard original. Cet ensemble se présente tout d'abord comme une documentation historique transversale qui représente la Première Guerre mondiale du point de vue des civils. On trouve ainsi des séries de photographies documentant la transformation de la roseraie en jardin potager durant la guerre. Si on dispose malheureusement de peu d'informations au sujet de cet aménagement, on sait cependant que le chantier de ces jardins, entrepris par Kahn entre 1895 et 1920, cesse pendant la guerre. Une autre illustration de la guerre nous est donnée par la série de portraits des jardiniers d'Albert Kahn, qui ont été photographiés en permission. Ces jardiniers soldats, qui posent littéralement la fleur au fusil, doivent être mis en relation avec les projections qui associent souvent, elles aussi, les fleurs au combat. Un second registre historique, conservé au musée Albert Kahn, le registre des projections, consigne la date, le nom des invités et les thèmes projetés à Boulogne entre 1913 et 1930. On trouve ainsi, pour la séance du 20 mai 1918, la mention « Scène de tranchée, Jardin de Boulogne ». Le 10 décembre 1918, Verdun, Château-Thierry, Gerbévilliers, l'Alsace, Venise et les Jardins de Boulogne. Le 25 juillet 1921, la mention « Versailles, traité et automne » mêle encore une fois l'histoire au jardin. On pourrait bien sûr voir dans ce montage une célébration de la paix, puisque de tout temps, les fleurs en ont porté le symbole. Et qu'Albert Kahn était un pacifiste, comme en témoigne l'une de ses œuvres philanthropiques, le CNESP, Comité National d'Études Sociales et Politiques, qui, je cite, « n'étudie pas la guerre, mais se consacre à la paix organisée ». C'est donc une représentation de la guerre oblique, puisque la guerre apparaît à la fois en creux et à côté, comme le produit d'une chaîne d'associations partant de l'antagonisme radical qui oppose le champ de bataille au jardin. Il faut alors parler d'un autre projet photographique d'Albert Kahn qu'il met en place en parallèle des archives de la planète et de la photographie de ses jardins. En 1917, il nourrit en effet l'ambition de réaliser une galerie de l'histoire autochrome. Chevalier nous éclaire encore une fois sur cette intention. Je cite « Lorsque des invités de marque venaient visiter les jardins, on faisait leur portrait en double exemplaire. Un leur était offert et l'autre prenait place dans la collection de l'histoire. Dans un premier temps, Kahn fait photographier ses hôtes dans son jardin. Et voici par exemple deux photographies du poète et prix Nobel de littérature indien, Rabindranath Tagore. À côté de ce premier type d'image, on trouve une autre documentation historique qui représente elle aussi un à côté de l'histoire. En effet, ces documents font remonter, en surface des événements historiques, des éléments biographiques qui nous renseignent sur la vie d'Albert Kahn. Étudions tout d'abord les prises de vue de la forêt bleue du jardin Albert Kahn. Celle-ci a été conçue comme une représentation miniature de la forêt vosgienne. Elle se présente alors comme un paysage d'enfance mélancolique, la forêt bleue constituant un échantillon du paysage alsacien que Kahn a dû quitter à l'âge de 12 ans. Son nom même évoque une expression vite devenue populaire que l'on retrouve par exemple dans le testament de Jules Ferry. Je le cite « Je désire reposer dans la même tombe que mon père et ma sœur, en face de cette ligne bleue des Vosges, d'où monte jusqu'à mon cœur fidèle la plainte touchante des vaincus. Je ne veux bien entendu d'aucun prêtre à mes funérailles. » Rappelons alors que la rhétorique antique avait une conception topographique de la mémoire, et peut-être Albert Kahn a-t-il à son tour cherché à aménager un lieu de conservation à ses souvenirs et à les raviver à la vue de ses autochromes. Un autre exemple de la portée à la fois biographique et historique de ce corpus réside dans les photographies du jardin japonais. En effet, le modèle japonais exerce un puissant attrait sur Kahn. Il s'est rendu plusieurs fois au Japon et c'est l'un des premiers banquiers à y avoir engagé des relations commerciales. Il entretenait des relations privilégiées avec la famille impériale et l'on trouve notamment le nom de Nobuko Asaka, fille de l'empereur Meiji, dans le répertoire des invités d'Albert Kahn constitué par l'équipe du musée et que j'ai pu consulter en 2015. C'est indéniablement son jardin japonais que Kahn a le plus soigné. Des pavillons ont été rapportés du Japon et remontés sur place par une équipe japonaise. On trouve dans les serres un autre exemple des efforts de Kahn pour importer le modèle japonais. Il s'y déploie une culture de chrysanthème de forme pyramidale ou taupière, une technique horticole signalée par les périodiques de l'époque comme particulièrement délicate et réalisée dans les jardins impériaux au XIXe siècle. Cette réappropriation de techniques et de matériaux traditionnels japonais doit être mise en rapport avec le phénomène de globalisation naissant, un sujet qui a fait l'objet de nombreuses études, parmi lesquelles celle de Paula Hamad, sur lesquelles nous n'avons malheureusement pas le temps de nous étendre. Albert Kahn, banquier, dont la fortune repose sur la spéculation de mines d'or en Afrique du Sud et sur l'ouverture du Japon au commerce international, se présente en effet comme un pur produit du libéralisme florissant. Il faut cependant se garder de toute interprétation hâtive qui conduira à faire de Kahn un partisan de l'uniformisation des modes de vie, puisque le projet des archives de la planète prête au contraire une attention inquiète aux singularités locales. On a ici néanmoins, dans cette évocation par l'image du Japon rêvé d'Albert Kahn, un indice de la manière dont les archives de la planète et les autochromes du jardin de Boulogne s'ancrent dans le contexte économique qui a favorisé leur développement. Il faut maintenant évoquer les liens que notre corpus entretient avec la géographie, autre discipline en prise directe avec de tels enjeux. La géographie est alors en plein essor et en voie d'institutionnalisation. Elle se distingue au début du XXe siècle de l'histoire pour devenir une science à part entière. C'est l'époque des grandes missions ethnographiques et la figure de l'explorateur aventurier s'enrichit de compétences scientifiques et techniques, et militaires, pardon. L'Europe entre dans une phase d'appropriation. Aussi, la légitimité scientifique de la géographie va-t-elle de pair avec son utilité pratique? Accompagnant la mise en carte du monde, les archives de la planète participent à l'élaboration visuelle d'un savoir géographique, ethnographique et colonial. En effet, début 1912, Kahn engage comme directeur scientifique des archives de la planète le professeur Jean Brune. En échange de ses services, Albert Kahn finance la création d'une chaire de géographie humaine au Collège de France. Brune est chargé de cadrer méthodologiquement les archives de la planète et d'en assurer la cohérence et le rayonnement scientifique au moyen de projections conférences au Collège de France notamment. dans son livre intitulé « La géographie humaine, essai de classification positive, principes et exemples », publié pour la première fois en 1910, Jean Brune se réfère à la photographie. Il en fait une métaphore du regard du géographe. Je le cite « Élevons-nous en ballon ou en aéroplane à quelques centaines de mètres, au-dessus du sol. Et l'esprit débarrassé de tout ce que nous savons des hommes, tentons de voir et de noter les faits essentiels de la géographie humaine avec les mêmes yeux qui nous permettent de découvrir et de démêler les traits morphologiques, topographiques, hydrographiques de la surface terrestre. De cet observatoire supposé, qu'apercevons-nous ? Ou mieux encore, quels sont les faits humains qu'une plaque photographique pourrait enregistrer tout aussi bien que la rétine de l'œil ? Selon Brune, la fidélité mécanique de la photographie au réel en fait donc l'outil privilégié de l'observation géographique. La formation géographique des photographes engagés par Cannes a été décrite par la fille de Jean Brune, Marielle Jean Brune de Lamarre, qui se souvient que son père recevait les opérateurs avant leur départ en mission dans le laboratoire aménagé par Auguste Léon. Le géographe fixait l'itinéraire des photographes en s'appuyant sur divers supports de documentation. Je la cite, carte d'état-major, volume de géographie, guide, photographie. Brune offrait également à chaque opérateur un exemplaire de la géographie humaine, dont je viens de citer un passage. Or, bien que l'étude de la correspondance de Brune laisse penser qu'il n'était pas en charge de la photothèque du jardin Cannes, on y trouve l'empreinte de son regard géographique. La géographie humaine, en opposition à la géographie physique, désigne l'étude des faits d'occupation humaine à la surface de la Terre. Brune en propose la classification suivante. Or, qu'est-ce qu'un jardin, sinon par excellence, un fait d'occupation improductif des sols, tout à la fois lieu de passage et de vie. On a en effet vu combien la trace des événements historiques et du parcours personnel de Cannes sont inscrites dans le jardin à Seine, autour duquel se regroupent les différents bâtiments de la propriété de Boulogne, qui sont autant de centres d'activité des diverses fondations du banquier. Parmi ces fondations, l'une d'elles intéresse directement notre corpus. Il s'agit du laboratoire de biologie, dirigé par le docteur Jean Commandon à partir de 1927. Un article de Flore Hervé, paru dans l'ouvrage Albert Kahn, singulier et pluriel, publié par le musée en 2015, décrit les prémices de ce projet. En 1917, le physiologiste indien Sir Jagadish Chandra Bose, qui a créé un institut de recherche botanique à Calcutta, rend visite à Cannes. Il est l'inventeur du crescographe, un appareil pour mesurer la croissance et la réaction des végétaux aux stimuli extérieurs. Invité en juillet 1920 au Cercle autour du monde, Chandra Bose y expose ses recherches qui visent à établir l'existence d'un système nerveux sur les plantes. On sait que cette conférence eut un impact considérable sur Cannes et tient lieu d'amorce aux recherches scientifiques qui se déroulèrent dans sa propriété. En effet, moins d'un mois après, Cannes y invite le docteur Jean Commandon. Il s'agit de l'un des pionniers du cinéma scientifique qui a mis au point la technique de la microcinématographie qui permet de filmer l'évolution d'organismes microscopiques en collant directement une caméra sur les plaques de verre qui en sert la préparation, les lames de verre. À l'occasion de cette visite, Cannes commande aux médecins plusieurs vues scientifiques d'enseignement. Elles sont réalisées en compagnie d'autres chercheurs pour la maison Pathé à partir de 1909. Le banquier les trouve, selon ses propres termes, admirables. Sur les 555 séances consacrées à la projection de films à Boulogne entre 1921 et 1930, l'épanouissement de quelques fleurs est projeté plus de 200 fois. C'est de loin le film que Cannes a le plus montré. Celui-ci repose sur la technique du time-lapse, qui échelonne les prises de vue sur plusieurs heures et dont la projection accélérée permet de rendre compte de processus très lents. Mais Cannes ne s'arrête pas là. Dès novembre 1920, il propose à Commandon d'enregistrer les phénomènes de la vie dans sa propriété. Ce n'est que 7 ans plus tard que ce dernier s'installe en compagnie de son collaborateur Pierre de Fontbrune dans le laboratoire aménagé par Kahn. Une pièce entière est réservée à la prise de végétaux et la croissance des végétaux y est tournée en 1929. C'est un film qui documente en accéléré la floraison de 10 espèces de plantes dont la plupart ont pu être prélevées dans les jardins. S'il est peu probable que les autochromes du jardin aient servi de support direct aux recherches scientifiques menées par le docteur Commandon, l'intérêt de Kahn pour l'étude de la biologie et de la botanique y apparaît pourtant manifeste. J'ai choisi de vous montrer quelques images dont la légende évoque ce type d'observation. Donc là, une série, donc j'ai mis quelques exemples, mais il y en a beaucoup plus. Une série intitulée « État de la végétation ». Et d'autres exemples, où on voit que d'autres photographies accordent une importance certaine aux caractéristiques des espèces végétales photographiées en plan rapproché. Ces images, dont nous venons de voir qu'elles sont en adéquation avec le développement de certains savoirs qui étaient l'objet de discussions à Boulogne, y ont été montrées dans un contexte résolument spectaculaire que je vais maintenant préciser. Intéressons-nous tout d'abord au cadre de réception de ces images. Qui était invité à les admirer et dans quelles conditions? Reportons-nous à la liste précédemment évoquée, réalisée par le musée et qui recense plus de 4000 invités de la société autour du monde et proches de Kahn. On y trouve pour chacun son nom, ses fonctions, la date de visite à la propriété et, le cas échéant, la date de son portrait autochrome. À partir du 24 mai 1906, nous l'avons déjà évoqué, Kahn fait de son hôtel particulier le siège de la société autour du monde. Le cercle de Boulogne, comme l'appelait Bergson, initialement constitué des agrégés bénéficiaires des bourses autour du monde, s'agrandit progressivement de membres titulaires et de membres d'honneur. En 1931, il compte ainsi plus de 186 membres. Boursiers et adhérents assistent à des comptes rendus de voyage et des conférences qui favorisent l'émulation intellectuelle et scientifique du groupe. C'est sur le mode informel de repas partagés que savants, artistes, universitaires et personnalités de tous horizons politiques se réunissent. On remarque alors que d'éminents acteurs de la découverte de la couleur en photographie se rendirent à Boulogne. Ainsi, le 4 mai 1913, Gabriel Lippmann rencontre le mathématicien suédois Mita Glifler, Paul Painlevé et Paul Langevin. Le 17 juin 1930, c'est Louis Lumière qui est invité chez Albert Kahn. Dès 1913, Kahn étend ce dispositif composite, à la fois élitiste et convivial, et propose aux sociétaires et à leurs invités d'assister à la projection de ces plaques autochromes. On retient notamment la présence à ces projections des prix Nobel de physique Albert Einstein, Marie Curie, Charles-Édouard Guillaume, Jean Perrin, Hendrik Lorentz, Albert Michelson, Sir Joseph John Thomson et Piet Zeeman. Paul Langevin, Émile Borel et Paul Appel sont aussi des invités de Boulogne. Enfin, Kahn ouvrait son jardin aux sociétaires et à leurs invités tous les dimanches, de 13h à 15h. C'est à ce moment-là que les portraits de ses hôtes y étaient réalisés. Notre corpus est donc deux fois représentatif de l'élitisme convivial de la société autour du monde. Il fait l'objet de projections sélectives et il donne à voir un lieu paisible et diversifié où l'on se promène sur invitation. Tout est donc en place pour que l'accueil réservé aux projections des autochromes de Kahn soit des plus enthousiastes, car certains spectateurs sont directement concernés par l'invention de la couleur en photographie. Comment se déroulaient donc ces visites à la société autour du monde? Elles se présentent comme de véritables machines illusionnistes, car au-delà des projections, c'est tout le parcours imaginé par Kahn pour ses invités qui prend le tour d'une fantasmagorie. Peu de documents nous renseignent sur le déroulement des visites de la propriété de Boulogne. La monographie Albert Kahn singulier et pluriel nous apprend cependant que celle-ci se déroulait suivant un programme précis, choisi par le maître des lieux. En chef d'orchestre, Kahn a imaginé pour ses hôtes un enchaînement d'attractions variées que nous décrivent des médecins venus visiter le centre de biologie. Après avoir découvert le matériel employé par le docteur pour réaliser ces films, ils assistent à une projection scientifique. Certaines vues des archives de la planète leur sont alors montrées. Je les cite. « D'admirables vues en couleur de la collection du centre de documentation se sont ensuite succédées sur l'écran. Ce sont de véritables voyages en Égypte, en Grèce, aux Indes, au Japon, que nous a permis d'effectuer la lanterne magique. » La visite s'achève par une promenade dans les jardins. Je les cite à nouveau. « Enfin, par une splendide journée, les visiteurs ont pu admirer les jardins où l'on passait des grands espaces bordés de cèdres bleus à la fantastique vision d'un coin du Japon embaumé de glycines et tout illuminé par les bouquets d'azalées multicolores. » Albert Kahn avait donc résolument l'intention d'éblouir ses invités. Et plusieurs exemples attestent du caractère féerique, des récréations proposées par Albert Kahn. Son secrétaire, Paul Dusselier, nous révèle les dessous de l'un de ses tours de magie. Je le cite. « Oh, il y avait quelquefois quelques surprises en ce qui concerne les jardins. C'est ainsi que quelquefois, lorsque nous passions devant le jardin à la française qui était garni de fleurs bleues, je le faisais remarquer aux visiteurs, et le temps que nous fassions le tour par les Vosges et la forêt bleue, quand nous revenions, toutes les fleurs étaient rouges. Les visiteurs ne comprenaient pas pourquoi, mais je puis vous le dire. C'est parce que toutes ces fleurs étaient en pot, et dans l'intervalle, tous les jardiniers, les 12 jardiniers, étaient venus retirer les pots bleus pour mettre des pots rouges. » Voilà donc quelques surprises qu'Albert Kahn se permettait. Mais vraiment, c'était magnifique et tout le monde applaudissait. Deux images, peut-être, documenteraient cette espièglerie. Elles ont toutes deux été prises en avril 1912, mais le jour des prises de vue n'est pas mentionné. Cependant, le cadrage semble néanmoins faire de la couleur du parterre le véritable sujet de ces photographies, et on peut remarquer aussi qu'elles se suivent vraiment de très près dans l'inventaire, puisqu'ici on est en B158 et là B137. On sait aussi que les visites de nuit se déroulaient dans l'obscurité totale et que le jardin s'éclairait au fil du pas des invités. Par ailleurs, plusieurs fêtes étaient organisées à Boulogne, parmi lesquelles une fête de la jeunesse et du printemps et une fête des chrysanthèmes. Le soir de Noël 1918 donne lieu à une séance exceptionnelle et de très nombreux invités viennent en famille et beaucoup d'images sont alors montrées. Les vues du jardin encadrent la projection. Je cite les thèmes de cette projection, l'éléphantine, jardin de Boulogne et coucher de soleil au Cap Martin, parce que Kahn avait aussi une propriété au Cap Martin, il avait un très grand jardin qui était essentiellement constitué d'essences exotiques. Donc jardin de Boulogne et coucher de soleil au Cap Martin, l'Alsace, Venise, Vienne, l'Égypte, Reims, Château-Thierry, Carcassonne, Le Puy, jardin de Boulogne et coucher de soleil au Cap Martin. Les photographies de jardin font donc office de bouquet final de ces projections. Elles reprennent ainsi l'iconographie festive et éblouissante des autochromes de Léon Guimpel, notamment lorsqu'il photographie les feux d'artifice et les enseignes lumineuses. Indépendamment de son contexte de diffusion, notre corpus fait appel à la sensibilité des spectateurs en mettant en avant les qualités spécifiques de la couleur autochrome. En effet, si la couleur autochrome peut être rapprochée de la peinture à bien des égards, sa transparence et sa matérialité sont uniques, comme le révèle Nathalie Boulouche dans sa thèse de doctorat intitulée « La photographie autochrome en France ». Le procédé autochrome permet tout d'abord un effet de transparence inédit, grâce auquel la vibration et la luminosité des couleurs reproduites sont inégalées, même en peinture. Nathalie Boulouche explique ce résultat, je la cite. En effet, avec l'autochrome, la perte de lumière est bien inférieure à celle que subit une image pigmentaire sur support opaque comme la peinture, du fait que dans ce second cas, la lumière subit deux absorptions à travers les pigments au lieu d'une seule pour un support transparent. Fin de citation. Il semblerait alors que les opérateurs, comme de nombreux autres autochromistes, aient pris un plaisir particulier à photographier l'éclat des rouges de la nature, jouant de leur complémentarité. Cette démarche résulte autant d'une recherche esthétique que d'un attrait instinctif. Longtemps privés de couleurs, les photographes en sont comme assoiffés. Nathalie Boulouche relève à cet égard le propos d'Edouard Stéken. Je le cite. « De même qu'un enfant cueillera dans un parterre la fleur la plus rouge, nous avons usé nos premières plaques sur cette couleur, obéissant ainsi à d'ancestraux et sauvages instincts qui n'en sont pas plus mauvais du reste. » Cet effet est considérablement représenté dans notre corpus. Sur 120 plaques au moins, c'est-à-dire un peu moins d'un dixième du corpus autochrome, une pointe de rouge exalte les verts du paysage. La matérialité de la couleur autochrome est par ailleurs mise en valeur dans cet ensemble. Les 4 millions de grains colorés déposés pour chaque centimètre carré de plaque autochrome confèrent un aspect velouté à l'image qui transforme les couleurs en carnation. C'est une matérialité qui se distingue de la matière picturale parce qu'elle ne se laisse pas toucher, mais restitue visuellement la douceur des pétales de fleurs représentés en plan rapproché. Par endroits, les fleurs des champs dispersées dans la prairie s'apparentent à une traînée de poudre. Les arbres en fleurs et la neige sont cotonneux. Le grain de la couleur s'apparente alors à celui de la voix ou de la peau. On a vu dans une première partie combien nos images trouvent leur place dans la constitution de formes visuelles de savoir. Au tout début du XXe siècle, l'histoire, la biologie et la géographie emploient toutes trois la photographie comme outil privilégié de leur vision objective. L'invention de la couleur, scientifiquement fondée, constitue alors ici un gage de vérité scientifique, une caution supplémentaire au crédit heuristique accordé dès sa découverte à la photographie. Mais la couleur est peut-être à la fois un progrès et un miracle. Si les choses photographiées sont d'autant plus vraies qu'elles le sont en couleur, elles sont aussi d'autant plus belles. Nous venons de voir combien les visites et les projections de Boulogne, spectaculaires, et les propriétés spécifiques de la couleur autochrome confèrent à ces images une qualité sensible. Comment alors conjuguer les deux caractéristiques de notre corpus, tout à la fois documentation quotidienne traversée par des enjeux scientifiques et source d'émerveillement et de plaisir esthétique. Mon hypothèse est que la couleur est ici dotée d'une fonction rhétorique. La couleur permettrait alors de soutenir un discours dont l'efficacité reposerait en partie sur une séduction sensible. Cette hypothèse se trouve étayée et précisée par le registre de sortie des plaques qui nous indique que les archives de la planète ont voyagé dans différents lieux institutionnels de diffusion des savoirs. Plaire et instruire semblent bien être la vocation des collections autochromes assemblées par Cannes. Or, cette destination ne peut manquer de nous rappeler l'âge classique. Dans son ouvrage « La couleur éloquente, rhétorique et peinture à l'âge classique », Jacqueline Lichtenstein nous rappelle qu'à cette époque, la peinture est en quête d'autonomie et de légitimité par rapport à l'ordre du discours dominant, rationnel, philosophique et historique, ordre auquel le dessin fait allégeance. La couleur, quant à elle, sème le trouble. Par son biais, les peintres proposent un nouvel ordre visuel où règne, je la cite, « l'unité harmonieuse de la vérité et de l'agrément », où la raison s'allie au plaisir et la connaissance avec le bon goût. On serait tenté de voir à Boulogne un rappel des salons classiques, lieu, je la cite encore une fois, d'interpénétration des valeurs mondaines et intellectuelles. Et dans la personne d'Albert Kahn, une sorte d'honnête homme de la société industrielle. Rappelons que ce dernier enjoint ses boursiers à, je le cite, vivifier la pensée en la rapprochant de l'action, en voyageant les yeux grands ouverts. On trouve alors dans ses propos tout à la fois une critique du savoir livresque et une définition de la connaissance qui a toutes les caractéristiques d'un jugement visuel. Cette juste distance par rapport aux choses, l'exercice des facultés de discernement des jeunes agrégés par leur contact direct avec les événements, nous évoque en effet l'idéal de bonne vue classique. Pour ce qui est de nos autochromes, elles s'inscrivent peut-être dans une telle délicatesse de l'esprit, je cite, c'est encore une expression de Jacqueline Lichtenstein, les fleurs et le jardin étant par excellence les sujets de l'agrément et du raffinement. Cependant, en photographie, nous l'avons dit, La couleur est scientifiquement fondée, si bien qu'elle n'apparaît pas comme une insurrection à l'hégémonie du modèle scientifique, mais bien plus comme son relais. En ce début de siècle, le poids des institutions semble effectivement s'être déplacé de l'Académie des Beaux-Arts à l'Académie des Sciences. Tout semble alors en place pour que se constitue, grâce à la collection autochrome d'Albert Kahn, un ordre de visuel consensuel qui ne bouleverserait pas l'ordre d'un discours dominant dicté par les sciences. Mais pourtant, sous couvert d'une caution académique, le geste de l'image progresse. Essayons donc à présent de caractériser le discours soutenu par la séduction sensible de la couleur. Et ce discours apparaît double. La couleur pourrait soutenir d'une part les idées défendues par Kahn, et d'autre part peut-être la modernité photographique. Les photographies du jardin pourraient alors être associées à une forme d'autopromotion permettant à Kahn de séduire ses invités afin de les convaincre des qualités documentaires de sa collection et de favoriser leur implication dans les activités de ses fondations philanthropiques. Quoi de plus convaincant, en effet, que de constater la fidélité de l'autochrome aux couleurs exceptionnelles de son jardin après l'avoir justement parcouru. Il n'est pas lieu ici de définir les nombreux enjeux historiques et politiques des archives de la planète qui font l'objet d'une thèse en cours de préparation par Anne Sigaud. Notre corpus pourrait en revanche constituer la partie privée de cette photothèque. Appuyons-nous pour cela sur le cas de la représentation du jardin anglais. Son absence flagrante nous interpelle. Comment l'expliquer ? Il paraît alors vraisemblable de supposer que si le jardin anglais ne figure pas dans notre corpus, c'est parce qu'Albert Kahn lui-même a souhaité qu'il n'y fût pas. L'absence d'autochrome du jardin anglais signalerait donc la présence d'Albert Kahn en commanditaire. Il aurait préservé le caractère sinon secret, du moins privé de son jardin, en interdisant qu'une partie soit photographiée. En se rendant sur les lieux, on constate effectivement le retrait du jardin anglais dans un écrin de verdure protégé des regards. En cela, le cas du jardin anglais se présente comme l'indice d'un contrôle exercé sur les prises de vue de ces jardins par Albert Kahn et nous invite donc à considérer sa fonction rhétorique à la lumière de ses engagements. Ajoutons que les trois seules photographies que l'on ait de ce jardin ont été prises bien après la mort de Kahn, en 1950, et que sur l'une d'elles, on trouve un fauteuil vide. Adoptons à présent une perspective plus large afin de considérer la place de cet ensemble dans la modernité photographique. L'autochrome a souvent été rapproché d'une expressivité artistique associée au pictorialisme. À cet égard, les qualités documentaires de notre corpus et des archives de la planète interrogent. En effet, ces images auraient peut-être plus de similitudes avec le style documentaire qu'avec le pictorialisme. Il faudra pour cela remonter à l'essor et à l'influence sur la photographie moderne de la science du paysage dans les universités allemandes au tout début du XXe siècle. Celle-ci se forme dans le sillage du romantisme autour de Friedrich Hassel, Alexander von Humboldt et Carl Gustav Carus. Mais cette géographie est également en train de se développer en France, et précisément dans l'entourage de Kahn, puisque l'un de ses pionniers n'est autre que Vidal de la Blache, maître de Jean Brune. La remarque de Sander, qui photographie la forêt et les formations rocheuses de la région rhénane, doit alors être rapprochée des archives de la planète, mais également de notre corpus. Je cite Sander, « Une fois que nous avons décrit la physionomie humaine, nous en venons aux réalisations de l'homme, à ses œuvres. Nous commençons avec le paysage. Sur lui également, l'homme imprime sa marque par ses œuvres, de telle façon que, pareil à la langue, il se développe selon les besoins humains. En cela, l'homme transforme souvent les résultats de l'évolution biologique. Sur le paysage également, nous pouvons reconnaître l'esprit humain d'une époque et nous pouvons le saisir au moyen de l'appareil photo. » Fin de citation. Tout comme les tenants du style documentaire, les opérateurs de Boulogne ont exploité les spécificités du médium, c'est-à-dire sa capacité à reproduire fidèlement le réel, à des fins d'expressivité nouvelle. Il n'est peut-être pas anodin, alors, que la question de la couleur, en photographie comme en peinture, apparaisse au moment de leur autonomisation et de leur légitimation artistique. À travers elle, le positionnement de ces systèmes de représentation face au discours est en jeu. C'est bien un idéal de lisibilité que poursuivaient quant à eux les tenants du style documentaire. Et on pourrait voir, avec l'autochrome, une autre manière pour la photographie de chercher à intégrer ce paradigme discursif. Une manière qui accorderait une place à la séduction du sensible, sans pour autant tourner le dos à l'idéal d'objectivité que supporte le procédé mécanique. Si le style documentaire nourrissait l'ambition de plier la photographie aux lois de l'écriture, comme l'affirme Olivier Glugon dans le style documentaire, peut-être l'autochrome, quant à elle, se rêvait-elle parole. Les photographies du Jardin Cannes peuvent donc être considérées comme des représentations de savoir en pleine évolution et dont la propriété de Boulogne est l'un des laboratoires, l'histoire, la géographie et la biologie. Mais parce qu'elles font l'objet de projections spectaculaires et mettent en valeur les qualités sensibles de la technique autochrome, elles suscitent autant l'admiration de leurs spectateurs qu'elles n'éveillent leur intelligence. C'est pourquoi je propose de les intégrer à un dispositif rhétorique où la couleur opérerait une séduction sensible propre à emporter l'adhésion des spectateurs aux idéaux défendus par Cannes à travers ses multiples fondations. La couleur, tout à la fois caution scientifique permettant de définir un projet documentaire et gage d'expressivité encourageant le plaisir esthétique, pourrait alors prendre part à la modernité photographique.